French. Bonjour Rodrigo, comment vas-tu?
That's very good.
English.
French? This is a French channel. Okay?
Yeah.
Good morning, translators. Can I just get you to quickly just to give me a quick 1, 2, 3, 4 into your each of your microphones, please?
1, 2, 3, 4. This is a French channel. French channel. 1, 2, 3, 4. Can you hear us? Hello, this is the French channel. French channel, can you hear us? 1, 2, 3, 4. That was not quick. Can you hear us? 1, 2, 3, 4. French channel. Okay.
Spanish is good. Thank you very much.
Hello, does anybody?
Karel prend la parole. Bonjour, est-ce que tout le monde. Quelqu'un a une chanson qui voudrait entendre ce matin? Oui, une chanson pour le matin. Bah, je chante si vous voulez. Une chanson pour ce matin. Vous voulez pas de la musique? Si je chante, en fait, ça va être trop trop bon. Il va pleuvoir. Alors, la musique.
There you go.
this song has more meanings than one. Countdown. That's the name of the song. So this is your final countdown. Counting down to launch. Oh. Huh? Look at that. Ah, okay, well let's start. Good morning everybody.
Karel prend la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont été au gala hier soir. Ils sont déjà endormis un peu. Et donc, ils sont des zombies. Je comprends. Prenez une tasse de café. Si vous n'êtes pas à 100%, s'il vous plaît, prenez la liberté d'aller chercher un café. Il y a aussi des pâtisseries. On n'est pas tous là, mais ce matin, nous avons des orateurs fantastiques qui vont venir nous voir. Ah, bien, c'est Jenny qui m'a présenté cela. Bon, pendant ce temps, alors je vais bavarder avec vous. Le gala, c'était comment hier soir? Vous avez été? Oui? J'ai pensé que c'était fantastique. Je peux pas me plaindre. Je sais qu'il y en a qui ont pris des photos, donc il va falloir voir qui c'est qui a pris les photos. Pour les avoir et pour les publier sur Facebook. Donc je veux remercier tout le monde d'être venu, ceux qui sont ici à l'heure. Il est très important d'être ici, même s'il est très tôt. Donc je veux remercier tout le monde encore. D'avoir éteint les ordinateurs hier, ce qui était très important pour moi, pour la personne qui était venue nous parler. Ce n'est pas facile de se lever à 5 heures du matin, venir des fois 2 heures avant leur propre réunion des unités constitutives pour passer du temps avec nous. Donc lorsqu'ils s'engagent avec nous et qu'ils viennent nous expliquer, ce n'est pas facile de voir qu'on les regarde pas. Ils veulent voir qu'on participe directement. Et des fois, c'est dur, vous savez, de voir que tout le monde est en train de faire autre chose. Donc, je vous remercie d'avoir été à vos ordi et d'avoir participé également. La réunion finit aujourd'hui, comme vous savez. C'est une journée longue, mais très, très intéressante. C'est probablement Jean qui va parler de. On a des changements. Ginny parle hors du micro. Oui, c'est la même personne, mais à différentes heures. Karel reprend la parole. Bon, c'est un jour très important. On a beaucoup d'activités. Ginny va vous en parler. Et bien sûr, à chaque réunion, on entend dire les mêmes choses. C'est un réseau. Hier et le jour avant, les gens ont dit que lors des réunions, vous allez entendre différentes versions de ce qu'est l'industrie, des différents secteurs. Si vous ne savez pas quand rencontrer ces personnes, je vous dis maintenant, vous devriez le faire maintenant, c'est le bon moment d'échanger des informations, d'établir des connexions, des rapports. Même si vous n'appartenez pas à une unité constitutive ou si vous ne voulez pas appartenir, au moins, vous avez la possibilité d'être dans la même salle, à la même table, que les personnes qui sont des experts de l'industrie et dans la matière. Donc, je vous encourage à parler à ces personnes sur ce qui vous a intéressé. Bien, alors, Jenny, je vous donne la parole. Vous pourrez peut-être nous raconter quelles sont les activités pour aujourd'hui. Genialos, merci. Bonjour à tous. Ah, j'ai des réponses, même des gens qui sont sortis hier soir, ce qui n'est pas mal. La liste que vous voyez sur l'écran n'est pas tout à fait correcte. On a changé l'heure de 7h15 à 7h45. On va avoir les gens du RSSAC. Et de 7h45 à 8h, possiblement, on aura des informations du NOMCOM. On attend toujours leur confirmation. Et puis de 8h à 8h30, on aura Fadi Chiané qui va venir nous parler. Ça dépendra de comment ça se passe. Peut-être qu'on aura un peu plus de temps pour les questions de 8h30 à 8h45 avec les gens du NOMCOM. Alors, la liste est la même. On a changé un peu l'horaire des activités. Et puis de 10h30 à 13h30, il va y avoir une séance publique sur la responsabilité de l'ICANN et la transition de la supervision de la fonction IANA, qui correspond maintenant à l'NTIA. Donc, c'est un bon moment pour poser vos questions. C'est dans la salle principale, là où on a eu la cérémonie d'ouverture. C'est une bonne séance. Alors, venez, s'il vous plaît. C'est similaire au forum public, mais c'est juste consacré à ce sujet. Alors, vous pouvez venir poser des questions, vous engager. On a quelques minutes avant que notre premier intervenant soit ici, alors allez-y. Merci. Karel reprend la parole. Merci, Jenny. Il faut que je m'excuse parce que je l'appelle Jenny à chaque fois, mais en fait, elle s'appelle Jeannie. Et je m'excuse avec le reste des personnes et des participants que j'ai mal nommé. Je voudrais bien dire correctement le nom de tout le monde. J'essaie, je vous le dis, je fais de mon mieux. On a quelques minutes de plus et je veux vous inviter à prendre la parole si vous avez quelque chose à dire. Non, des commentaires, Martin? Non? Je veux dire aussi à 8h30? 8h45, bien. Ginny Alles prend la parole. À 8h45, on va avoir la clôture de nos séances et le photographe viendra nous prendre en photo. Alors, oui. On aurait prendre de belles photos maintenant qu'on est fatigué après le gala. Et donc, on a cette séance de clôture, dit Karel Douglas. Et donc, si vous voulez partager vos idées, vos pensées, ce serait un bon moment. Alors, soyez libre de réfléchir un peu pour nous faire savoir quelles sont vos pensées, vos idées à 8h45. Oui, Ginny. Ginny Alles prend la parole. Janice est dans la salle Adobe Connect. Elle dit bonjour. Elle dit que vous avez toutes très bien travaillé d'après les rapports qu'elle a reçus. Donc, si vous voulez accéder à la salle Adobe Connect, bien sûr, vous y êtes invité, mais souvenez-vous d'éteindre votre ordinateur lorsque l'intervenant sera là. Karel Douglas, bonjour Janice. Alors, elle a dû répondre, mais elle ne va pas le faire. Alors, ce matin, encore, on va éteindre nos ordi. Je veux féliciter tout le monde qui a pu survivre à cette semaine. Pour moi, ça a été une marathon. C'était comme courir une marathon. Moi, c'est mon avis. Hein. J'ai déjà couru quelques marathons de ma vie. Et pour moi, c'était pareil. Et je pense que tout le monde devrait avoir une médaille par cela. Et donc, ça devrait être un certificat, un diplôme. Alors, lorsque vous allez recevoir ce diplôme de la CAN, j'espère que vous avez déjà donné votre adresse. Vous voulez recevoir ce diplôme. Ce sera une preuve de vos achèvements, d'avoir passé une semaine de réunions intenses, de marcher partout dans la salle, d'aller aux différentes séances, d'apprendre autant que possible. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Oui, Ginny. Ginny, elle se prend la parole. J'ai également une demande. Quand vous aurez le temps, si vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la CAN et sur la page de la transition de la supervision d'Alfonso Yana. Je vous montre comment accéder. C'est sur la page d'accueil. Il faut cliquer sur IANA Stewardship, donc Supervision Yana. Et on voudrait savoir quelle est la simplicité des contenus. Si les personnes non anglophones d'origine comprennent ce qu'on dit, si c'est facile. Si vous avez du mal à comprendre ou à trouver des informations, faites-le nous savoir. Pas maintenant, bien sûr, mais en tout cas, on voudrait savoir. Une personne, Martine, prend la parole. J'étais en train de considérer la transition Yana. Et on discute toujours du contrat de Yana, mais je n'ai pas trouvé le contrat pour le lire, pour faire mes commentaires. Ginny Ellers. Cela est publié sur le site web de la CAN. Je vais le chercher et je suggérerais qu'il soit également inclus ici. Carl Douglas prend la parole. Merci Martine, c'est une bonne question. On parle du contrat entre Yana et ICANN. Martine prend la parole. Oui, celui qu'on a discuté, qui sera renouvelé. On parle déjà de ce contrat, mais la plupart parmi nous n'a jamais lu le contrat. Carl Douglas, oui, je comprends. C'était un très bon commentaire. La fonction Yana est un mystère pour moi. Alors, lorsque les personnes en discutent, des fois, ils parlent de protocole ou de fonction et il faut que j'essaye vraiment de comprendre qu'est-ce qui est en train d'être transféré. C'est la fonction de la supervision de Yana. En tout cas, rendez-vous sur la page, lisez les contenus, faites des commentaires sur le document et il sera traduit aux différentes langues. Jenny Ellers, oui, les différentes langues, si la traduction est bonne, si c'est utile, si vous le comprenez. On veut que la communauté participe autant que possible ici. Et donc, il est important que ce soit facile d'y arriver, facile de comprendre pour ceux parmi nous qui voulons participer. Carl Douglas, quelqu'un d'autre? Il nous reste quelques minutes avant de commencer. Martin, il y a une séance plus tard. En fait, c'est pas une séance, c'est le forum public de la CAN et la réunion publique du conseil d'administration de la CAN. Et on peut donc faire la queue, poser des questions, prendre la parole au forum public. Et ce sont de très bonnes séances pour conclure la réunion générale publique. Carl Douglas, oui, c'est l'un des points forts de cette réunion. Alors, oui, assurez-vous d'y aller. C'est une réunion extrêmement importante. Et ceux qui se le demandent, le conseil d'administration est ouvert pour recevoir des questions. Donc, on a une interface publique avec le conseil, ce qui est extraordinaire pour la plupart des sociétés. Hop, hop, ah oui, prend la parole. Bonjour tout le monde. Ça va? C'était bien le gars là, non? Bien, pour ceux qui sont venus un peu plus tard, il y a du café et du thé au fond de la salle. Alors, s'il vous plaît, cherchez du café, du thé, ce que vous voulez. Donc, prenez une place pour que, lorsque les intervenants arriveront, on sera déjà prêt, OK? Puis, le formulaire d'enregistrement est en train d'être circulé, alors assurez-vous de le signer. Il y a eu des personnes qui sont venues hier qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas signé. Alors, si vous êtes venu hier, plus tard de ce qu'on a circulé, le formulaire, on comprendra que vous n'êtes pas venu. Une partie de ce qu'être un boursier veut dire, ça veut dire qu'il faut respecter le temps des autres. Il faut le faire parce que ils se lèvent très tôt le matin. Imaginez-nous, on a du mal à venir. Mais eux, ils doivent en plus préparer leur séance. Donc, imaginez à quelle heure ils se lèvent pour venir à 7 heures du matin. Alors, il faut les respecter et s'assurer que la prochaine fois qu'ils vont venir voir les boursiers et que vous-même, vous aurez une bourse, vous allez respecter le temps des autres. C'est un énorme plaisir à ce point-là de présenter Lars Johan Lehmann de RSAC. Je ne vais même pas essayer de vous expliquer ce que l'acronyme veut dire. Donc je veux lui souhaiter la bienvenue. Et maintenant, je vous rends la parole. Lars Johan Lehmann prend la parole. Oui, bonjour. Je suis l'un des deux coprésidents du comité consultatif du serveur Racine. C'est probablement le comité consultatif le plus petit. On est l'un des comités consultatifs au conseil d'administration. Combien de temps a-t-on ? 5 minutes. Bien. Et je m'excuse, j'étais en train de trouver la bonne salle ici à l'hôtel. Et quand je suis arrivée ici, il y avait des panneaux dehors qui m'ont dérouté un peu. Donc voilà pourquoi j'étais un peu en retard. Essayez de comprendre, s'il vous plaît. Si vous me donnez une minute. Voilà. Bien.
I was intending to use parts of the slide.
Lars Johan Lehmann reprend la parole. J'espère qu'on aura le temps de tout voir. C'était pas fait exprès, hein. Je voulais pas compliquer votre vie, mais il me faut connecter mon ordinateur.
Give it a chance to just touch. This is not bad. Woo! Ah. Technology. Sorry. So, what is RSAC? RSAC is an advisory committee.
Alors, RSAC est un comité consultatif pour le conseil d'administration et notre portée est très spécifique. On se centre sur les services du serveur Racine. Et donc, qu'est-ce que la zone Racine? Le système DNS est hiérarchique. Et donc, lorsqu'un client d'ordinateur typique veut savoir quelque chose qui est lié à un nom de domaine, ils doivent le chercher sur la base de données. Et cette base de données est hiérarchique. Mais l'ordinateur ne sait pas comment lire ces bases de données. Donc, il y a des requêtes à faire dans le serveur. Et lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi, comme ici, il y a toujours un réseau derrière, un serveur. Donc, ce serveur saura comment naviguer le système, mais il garde en même temps une mémoire de ce qu'il a déjà appris. Alors, si vous avez de la chance, ce que vous demandez, les informations sont là où vous voulez, c'est le caché. Autrement, il faut que vous naviguiez les systèmes de serveurs racines qui sont liés, mais pas interconnectés. Il y a des pointeurs qui vous envoient d'un service à un autre. Et c'est ça le système hiérarchique, qui est descendant. Et donc, le résolveur ne connaît pas la réponse. Il va chercher les informations et selon les informations qu'il y a là, il va raccourcir le processus. Mais s'il ne sait rien, il va commencer par le serveur Racine. Et si on a, par exemple, moi, je suis www.liman.sa, j'ai un domaine SA, ça envoie une requête au serveur Racine. Et le serveur Racine, en fait, ne sait pas beaucoup. Il sait seulement où sont les serveurs Racine pour les noms de les domaines de premier niveau. Et il y a des signatures autour de ça, etc. Mais l'information essentielle est où sont les serveurs des autres domaines de haut niveau. Où est le serveur ou le service pour la Suède, ou pour la Suisse, ou pour la France, ou pour l'Afrique du Sud. Et puis, même si c'est ZA, est-ce que c'est .com, .net, .info ou quoi? Est-ce qu'il y a une différence entre les GTLD et les CCTLD? Une fois qu'on est au niveau technique, il n'y a pas de différence. Non. Aucune différence. Et les serveurs racines ne sont pas spéciaux. Comme logiciel, il n'y a pas de machine spéciale. Ce sont des serveurs de nom ordinaires qui sont en dessus de la base de données. Mais imaginez que la liste de serveurs est toute petite. Si vous accédez à un CCTLD ou GTLD d'une grande taille, une moyenne taille, ils ont plein de noms de domaines. La zone racine, non. Donc la base de données, la partie de la base de données qui est logée, qui est hébergée dans la zone racine, est minuscule.
Entry key to the entire system. So, small but rather...
Donc c'est la clé du système complet, ce qui est très important. Et voilà pourquoi on a beaucoup de travail. Donc voilà ce qui concerne les serveurs racines qui sont opérés et exploités par 12 organisations différentes qui datent de longtemps dans l'industrie de l'Internet. Moi, je travaillais pour Netmode. On opérait l'un des serveurs racines qui sont désignés par des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M.
So this root server system...
Alors, ces serveurs racines appartiennent à un système qui est un ensemble de serveurs qui distribuent les informations du DNS. C'est cette petite partie de la base de données de ces résolveurs qui ont besoin de trouver comment arriver au destin dans le système du serveur racine. Les informations dans cette petite partie de la base de données sont ce qu'on appelle la zone racine. Et cela est généré par Yana, qui fait partie de l'ICANN. Et par la suite, c'est envoyé pour vérification au département de commerce des États-Unis, à l'NTIA. J'essaierai pas de l'expliquer en ce moment parce que je me souviens pas ce qu'est leur acronyme. C'est l'agence des télécommunications, je ne sais plus très bien quoi. Ça fait partie du département de commerce. Et puis, VeriSign, qui a un contrat avec le département de commerce pour modifier le serveur, qui est le point de départ, pour copier cette partie de la base de données, la zone racine, à tous les opérateurs de la zone racine. Donc, j'ai dit qu'on avait 12 ou 13 opérateurs. Ce qui ne veut pas dire qu'on a 12, 13 serveurs. Il y a 20 ans, on essayait de distribuer davantage de serveurs racines et John Postel, qui était le président de Yana à l'époque, est décédé de façon soudaine et tout le processus a été arrêté. Donc, un peu d'histoire, là. Mais à l'époque, on n'avait pas 13 serveurs, parce que la plupart des opérateurs ont choisi d'utiliser des serveurs différents. Donc, on pourrait avoir des serveurs avec la même adresse IP, ce qui devrait être impossible, mais en fait, ne l'est pas. Donc, vous verrez dans le serveur racine I, en Afrique du Sud, en Bhoutan, à Vanuatu, à Beijing. Donc, seule la racine I a des serveurs à 5 endroits différents. Il y en a qui ont plus, hein. La zone racine L a 56 à peu près. Donc, au total, si vous voyez tous les serveurs, il y a plus de 300 serveurs, je crois, qui desservent la zone racine partout dans le monde. Et on considère constamment comment améliorer cela dans des domaines où il y a un service sous-normal pour la communauté. Alors, tout ce système veut dire que l'ICANN résout ce que la partie du DNS de la zone racine devrait être, l'NTIA l'autorise, VeriSign l'exécute, les opérateurs de la zone racine le publient. Et tout ce processus est-ce que RSA considère? On n'a pas d'autorité pour dire aux acteurs quoi faire. On peut les conseiller. Spécifiquement, on conseille le conseil d'administration, mais on peut également le faire pour toute la communauté technique également, sur ce qu'ils devraient faire au cas où il y a des questions ou ils doivent prendre des décisions qui pourraient avoir un impact sur le service de la racine, ce qui devrait être stable à 100%. Si cela s'interrompt, on ne va pas dire que l'Internet ne va plus fonctionner, mais elle va être atteinte. Vous ne savez pas, mais en ce moment, je dirais que sur la zone racine I, il y a 2 ou 3 serveurs qui ne fonctionnent pas. Il est probable. Hein. Et c'est normal, parce qu'on a des disques qui ne fonctionnent pas, des problèmes de connectivité avec les liens, mais le système fonctionne de sorte qu'il est redondant de façon automatique. On fait de notre mieux pour le maintenir en ligne, pour que vous ne vous rendiez pas compte s'il y a des problèmes. Et on nous aide beaucoup, parce qu'on peut avoir un site qui n'est pas en ligne et 5 secondes plus tard, le système va avoir réglé et il s'ajuste automatiquement de façon à continuer de opérer pour que vous ne sachiez pas qu'il y a eu un problème. Donc, ICANN s'occupe du système d'approvisionnement de la zone racine de toute la chaîne. Et nous, on conseille, mais on n'a pas de rôle exécutif. On ne peut pas prendre des décisions. On communique sur des questions. On en a déjà discuté cela. Bien. On essaie également de s'engager avec le reste de la communauté de l'ICANN. On n'a pas réussi pendant très longtemps parce que RSA, en ce moment, est en train d'être restructuré. C'était un comité et sera toujours un comité d'experts techniques. Donc les personnes qui opèrent des systèmes faisant autorité, ou d'autres opérateurs de TLD comme les GTLD, les CCTLD, les personnes qui exploitent ces résolveurs sont les clients du système. Il faut qu'ils y soient là. On doit travailler avec ces experts de sécurité. Mais ce sont plutôt des personnes techniques que l'on a. Donc ça veut dire que typiquement, ce ne sont pas des personnes qui vont venir participer aux conférences de la CAN pour les contacts techniques. Les réunions de la CAN, vous savez, sont plutôt orientées à la communauté des politiques. Mais RSAC, même si c'est un sous-comité au sein de la CAN, s'est réuni lors des réunions de l'IETF. C'était le groupe de travail du génie Internet, qui s'occupe des protocoles et de la technologie d'Internet. Et donc, on fonctionne en parallèle avec les réunions de l'ICANN, en simultané. Mais ces dernières 2 années, on s'est rendu compte qu'il nous fallait participer davantage avec la communauté de l'ICANN et que la façon de le faire était de mener des réunions en parallèle et au sein des réunions de l'ICANN même, d'y participer. Et je suis là avec vous et j'essaie de vous expliquer pourquoi on veut s'engager et entamer un dialogue avec vous également. Vous avez ici un schéma organisationnel de la CAN et vous voyez où on en est, où on est placé au RSA. On est un comité consultatif. La CAN a une portée beaucoup plus longue, plus large. Nous, on a une portée qui est très spécifique. Comme j'ai dit, on essaie de participer. Selon les statuts de la CAN, on a un agent de liaison au conseil d'administration. On a un membre au comité de nomination. Moi-même, j'ai essayé de participer à d'autres groupes de travail également. Donc, on a, par exemple, participé au comité de coordination de la transition de la supervision de la fonction IANA. On s'est engagé dans des dialogues avec les gens de responsabilité de la CAN et on essaie de participer aux discussions générales des parties prenantes. Et bien sûr, vous pouvez venir nous voir si vous avez des questions concernant les services du serveur racine, de ce système ou des questions générales. Comme j'ai dit, le RSAC ne peut pas imposer des réglementations. On ne prend pas des décisions. On ne dit pas au conseil quoi faire. On peut conseiller. Alors, RS5. On recommence. La révision de la structure de la CAN, qui est périodique, il y a des équipes de révision qui, justement, évaluent toutes les activités de la CAN et qui font des recommandations pour améliorer le système, ce qui inclut le RSAC. Une recommandation était d'inclure une meilleure définition de nos membres, de notre adhésion, et d'avoir une meilleure structure pour la prise de décision. Et il nous manquait du soutien du personnel dans les générations précédentes du RSAC, ce qui a été déjà réglé. Donc on a un nouveau modèle en ce moment de RSAC où on fonctionne comme une réunion de parties. C'est une réunion d'experts qui ont différentes spécialités. Et on a le comité formel du RSAC où les membres sont nommés par le conseil d'administration de la CAN. La réunion de parties que j'ai mentionnée est nominée par notre propre comité. Et on a aussi des agents de liaison avec le conseil d'architecture Internet, avec le conseil consultatif de sécurité et stabilité. Et le troisième était, quelle est l'autre réunion? Ah, on espère pouvoir avoir une réunion avec le GAC également. Et donc, on est en train de finir un document pour pouvoir régler nos procédures opérationnelles. C'est ce que je vais faire lorsque je serai partie ce matin. Et on invite également les personnes à ce nouvel organisme d'experts, cette nouvelle réunion. L'idée avec le processus de travail serait d'avoir cet organe d'experts lorsqu'il y a des problèmes à régler pour sélectionner un sous-groupe à partir du groupe principal qui va produire un document en tant qu'équipe et on aura une discussion au sein de ce groupe et le document sera finalement remis au comité pour qu'il le publie et pour qu'il soit traité comme recommandation. Le comité formel a également des présidents et des agents de liaison pour le groupe. Comme j'ai dit, je suis l'un des deux co-présidents. L'autre est le professeur June Murray du projet WIDE de la zone racine M. Et voilà les membres de l'ancien comité. On a eu des personnes qui ont quitté leur poste, différentes organisations. On en a qui attendent de recevoir la confirmation du conseil.
And all of these members are very happy to talk to you. If you have any questions, just go and find them.
Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je vous laisserai ma présentation également pour que vous la faites circuler.
Liaisons to the board liaison. That's what the third one was.
Ah oui, et les liaisons du conseil. Nous avons des agents de liaison avec Yana, avec le département de commerce. Nous avons des personnes de tous les secteurs du processus de génération de zones dans le comité. Je pense qu'on a déjà vu cela. On essaie d'améliorer en ce moment nos niveaux de transparence du comité. C'était très clair qui étaient les membres. On essayait de le définir sur la liste de diffusion. Et c'était pas impossible, mais c'était difficile de savoir qui appartenait à la liste de diffusion. Donc en ce moment, on vise à publier qui sont les membres de cette réunion, de ce groupe, pour pouvoir avoir des adhésions publiques, qui est des encouragements pour rejoindre le groupe et pour donner du crédit aux personnes qui font ce travail.
If you
si vous êtes intéressé ou si vous êtes des personnes techniques qui sont intéressées au groupe, vous pouvez trouver ces diapos pour voir comment rejoindre le groupe. J'admets qu'en ce moment, la plupart des membres viennent des zones d'Amérique du Nord et d'Europe, ce qui n'est pas bien parce qu'on voudrait vraiment contacter les autres zones où on sait qu'il y a autant de travail. Nous avons publié deux documents préliminaires qui sont liés aux attentes de la communauté Internet dans le service, au service du serveur Racine dans l'ensemble, parce que les 12 opérateurs de serveur Racine coopèrent du côté technique pour produire un service homogéné pour toute l'Internet. Et ce document essaie de décrire les attentes que la communauté devrait avoir de ce service de Racine dans l'ensemble, qui vient en parallèle avec le document produit par le Conseil d'architecture d'Internet, l'IAB. Et ces deux documents décrivent différents aspects du service du serveur Racine. Donc, le document est du côté du service pour voir quelles devraient être les réponses et les paquets à appliquer. Et puis, on a des accords au niveau de service pour voir quelle est la qualité et la performance du service. D'autre part, on a un document qui a été lancé concernant le système des nouveaux GTLD. On a ajouté maintenant des nouveaux TLD et on le fait à un rythme sans précédent. Dans le passé, on passait des années à ne pas avoir de nouveaux TLD. En ce moment, on a plein de différents moments. Donc, on veut mesurer la zone du serveur Racine pour voir si ces nouveaux GTLD et ce débit, ce rythme auquel on ajoute des informations ont un impact sur le service. Et il faut qu'on s'assure qu'on pourra couvrir cela. Donc voilà un document qui propose un nombre de détails techniques que l'on peut mesurer sur le système. On espère que tous les services vont le faire pareil. Donc on espère pouvoir mesurer toutes ces informations. On n'a pas moyen de comparer les deux en ce moment. Donc voilà ce que le deuxième document considère. C'est une version préliminaire parce qu'on attend avoir défini le modèle du groupe de parties pour pouvoir finir et conclure ce processus. Oui, nous allons participer au processus de transition de l'NTIA. Aujourd'hui, lors de leur séance, je vais intervenir. Il y a déjà deux personnes que l'on a nommées pour ce groupe de coordination parce qu'on croit que c'est un impact possible pour le processus de génération. Si on enlève l'NDIA dans le processus, c'est sans doute, le système va sans doute varier et on travaille déjà sur ce processus pour nous assurer que l'approvisionnement du système soit stable le long du processus. C'est ça qui nous intéresse. Les noms, etc., ne sont pas notre problème. Notre problème est d'assurer que le service fonctionne pour que les clients et les consommateurs du réseau aient un bon service. C'est tout ce qui nous intéresse. Alors, des questions, des commentaires. Waouh. Nabil Ben Ammar, du Maroc, prend la parole. Merci beaucoup de cette présentation. Elle était très détaillée et c'est la première fois que je comprends et que je peux m'occuper et je peux m'engager avec quelqu'un qui est responsable du système de serveur Racine. Ma question est technique. Et donc, je pensais toujours au système d'opération qui pouvait coïncider avec les différents serveurs sur le type de serveur DNS que vous avez dans le système de serveur Racine. Et je voudrais savoir quelle est la situation du repérage des anciens serveurs racines. Si je ne me trompe, il y a un tel schéma. Donc, comment est-ce que cette organisation géographique de A, B jusqu'à L, c'est tous ces serveurs, comment sont-ils choisis? Et puis, finalement, je voudrais savoir quelle est la communauté qui peut rejoindre ESSAC. Devrait-ce être des fournisseurs Internet ou toute personne technique? Lars-Johan Lehmann, alors, vous avez dit, vous avez parlé du logiciel, du système d'exploitation, les questions techniques. Ce n'est pas spécial, rien de spécial. Cela varie d'une lettre à autre parce que chaque opérateur décide lui-même. Donc nous, les opérateurs de la racine I, utilisons Linux et Bind du consortium du système Internet. Encore, je parle de la zone racine I. On considère la possibilité d'avoir des serveurs sur Bind et un autre groupe de serveurs avec un autre logiciel. Donc, on évalue la possibilité, on cherche à voir quoi faire pour avoir une diversité de logiciels. Et cette diversité est un point que l'on souligne dans la communauté. Donc, on prend cette décision spécifiquement par opérateur. Certains d'eux utilisent différents systèmes pour nous assurer qu'on n'ait pas de problème de mauvais fonctionnement du serveur racine, etc. Donc on fait attention à maintenir cette diversité, cet équilibre. Je vais modifier l'ordre ici. Merci. Oui, le repérage. Qui peut rejoindre? Bien. On cherche des personnes et les personnes qui sont engagées à la technologie DNS, mais ça peut être du point de vue de la sécurité ou du point de vue du registre, parce que le registre est la source des données du DNS. Donc, on a besoin d'avoir tout le monde dans ce domaine du DNS. Alors, ce peut être des experts sur les protocoles de l'IETF.
I need to shrink the window. There we go. Better? So the web page is www.
Le site web est www.root-servers.org. Bien, voilà. Vous pouvez cliquer sur les différentes options sur les serveurs qui sont situés sans emplacement spécifique, l'adresse IP Internet, du protocole Internet, IPv4, IPv6, la plupart utilisent les deux protocoles. Pas tous, bien sûr, il y a une diversité entre les serveurs, mais clairement, il y a un bon service de serveur racine. Donc, www.root-servers.org. Oui. Carl Douglas prend la parole. Oui, Mohamed. Mohamed prend la parole. Mwendwa Kivuva, pardon. C'est Mwendwa Kivuva. J'ai deux questions. Il dit, je veux savoir si chaque serveur racine entre A et L joue un rôle différent ou s'il joue le même rôle. D'autre part, comment est-ce qu'on décide comment distribuer ces zones, ces serveurs racines entre les différents emplacements? Et comment est-ce que les serveurs décident dans quel pays ils veulent aller, comment appliquer? Et lorsqu'il y a une présence, comment décident-ils quelles sont les racines qui les intéressent? Lars-Johan Lehmann, la première question sur les différents rôles, non, toutes les lettres ont le même rôle, exactement. On a une mauvaise idée. On croyait qu'il y avait des rôles différents entre les serveurs, mais ce n'est pas le cas. Tous sont identiques. Il y a 20 ans, c'était différent, mais ça fait déjà 10 ou 15 ans qu'ils ont tous le même rôle. Rien de spécial. On a la zone, la partie d'information de la zone racine des autres serveurs qui sont désignés spécialement pour distribuer la zone entre le système de serveurs racines. Il y a tout un système de distribution, de la matrice de distribution qui est aussi très redondante avec des services dans différents domaines, etc. C'est la différence. Chaque racine est identique à l'autre. Il faut que l'on décide où mettre en place les serveurs. Ça dépend de chaque organisation. Il y a jusqu'à 12 qui décident eux-mêmes où ils veulent mettre en place ce service. Je parle simplement de iRoot. C'est la racine que je connais, la racine I. On essaie de maintenir une relation large avec autant de personnes que possible. On est une compagnie toute petite avec 16 employés. On a des réunions de la CAN, on a des réunions de l'ACNIC, d'APENIC. On essaie d'être abordable, de maintenir des relations avec autant de personnes que possible, autant de régions que possible. Et on essaie de trouver des domaines où il n'y a pas un serveur de nos racines, où on peut atteindre une communauté qui n'est pas bien desservie, où on peut trouver une façon neutre de rediriger le trafic. On préfère de se connecter à des points d'échange où on peut rejoindre différents fournisseurs Internet, différents points. Et bien sûr, on veut également trouver des moyens de financer, de fonder RSAC. Ce n'est pas facile de fonder tout le service. On ne le fait pas gratuitement, je vous dirais. Mais on a d'autres sources de revenus que l'on prend pour opérer la zone. Mais il faut que l'on trouve un moyen pour opérer, pour pouvoir courir les coûts de cette opération, parce que ce n'est pas gratuit, ça a un coût. On essaie d'établir un rapport avec Afrinic en Afrique, avec qui on discute depuis longtemps, on travaille pour améliorer notre présence en Amérique latine. Mais c'est un problème parce que les systèmes de taxes et de droits de douane en Amérique latine sont différents au reste du monde. Donc ça devient très très cher de leur envoyer des équipes. Donc on essaie, si vous avez des idées, de situations d'emplacement qui ne sont pas bien desservies, où on peut améliorer, on peut trouver des fonds. Ce n'est pas la peine d'être vous-même, mais s'il vous faut trouver des machines, on est ouvert. On est ouvert, ce n'est pas un problème de site. Il faut que l'on trouve le bon emplacement. Et j'imagine que les autres ont les mêmes problèmes. Peut-être qu'il y a des solutions qui diffèrent, mais c'est l'opération des zones racines I que je vous raconte.
Hello, good morning. My name is Marisa. Where I'm from?
Bonjour, je suis du Pérou. Je m'appelle Alicia. Est-ce que l'adresse IPv6 a un impact sur la zone racine? Et si c'est le cas, comment? En quoi? Lars-Johan Lehmann prend la parole. Le serveur de la zone racine et tout le système des DNS, en fait, a été conçu pour pouvoir fonctionner avec IPv4 et IPv6. Et il y a deux parties, en fait, deux composantes de comment cela a un effet sur le système. Donc, l'idée serait de stocker des adresses IP dans le système de serveur racine. Si on a un serveur avec une adresse, il faut l'enregistrer sur la base de données. Et d'autre part, lorsque vous communiquez avec des serveurs de zone racine, l'idée est d'envoyer votre requête en code IPv6. Et les serveurs de zone racine sont bien équipés pour le faire. On va voir ici. Je vais vous montrer. Vous voyez en bas de la page que la zone racine A fonctionne avec des adresses IP, IPv4, IPv6. C'est la même base de données, le même service, Mais vous pouvez l'atteindre à travers deux systèmes de communication différents, que ce soit IPv4 ou IPv6. Vous pouvez aller voir pour chaque serveur quelle est la version qu'ils ont de l'IP. Il y en a beaucoup qui ont IPv4, mais vous voyez que la plupart a les deux. Alors, cela a un effet sur le service de la zone racine, mais c'est de toute façon un service complet.
Paul.
Okay, my question.
Je suis Paul. J'ai une question qui porte sur ce que vous avez dit du groupe. Est-ce qu'il va y avoir un groupe de personnes du domaine de la technologie qui vont être intéressées à la stabilisation du service de la zone racine? C'est ma première fois ici, c'est la première fois que j'entends parler de ce document du groupe. Mais est-ce qu'il s'agit d'un document pour lequel vous voudriez que les personnes intéressées, que le public contribue? Lars Jørgen Lehmann, oui, ce groupe sera un groupe d'experts techniques principalement qui va travailler sur la base de la liste de diffusion. RSAC1, un site internet qui appartient à la page d'ICANN. À mon avis, c'est une page qui est difficile à naviguer. Alors, je ne sais pas vraiment où on en est, mais vous pouvez nous chercher sur Google, vous allez nous trouver. Et on inclut une description de ce que fait ce groupe et comment vous pouvez devenir un membre du groupe. Mais on se centre plutôt, oui, sur les questions techniques. Gree prend la parole. J'ai une question courte ici. Alors, qu'est-ce qui est le principal pour la stabilité du domaine du serveur racine? Quel est le plus grand défi, à votre avis, le plus grand risque contre la stabilité? Lars Jørgen Lehmann. C'est une question intéressante. L'attaque physique, ça ne me gêne pas. Si quelqu'un élimine un serveur, ce serveur n'appartient pas au réseau, mais on aura d'autres serveurs en fonctionnement. Donc si quelqu'un le vole un ordinateur, ce n'est pas la peine de se préoccuper, parce que c'est pareil pour le réseau, ça n'a pas un impact. Alors la sécurité physique, ce n'est pas une préoccupation, mais ce qui me préoccupe est qu'en ce moment, les opérateurs de serveurs racines sont d'accord à 100% qu'on devrait se servir des informations d'IANA à travers de ce processus de transition NTIA, VeriSign, serveur racine. Et que le reste de la communauté d'Internet est à 100% embarqués dans le même projet. On est tous d'accord que IANA est la source et que c'est le processus pour générer la zone racine. Si on avait une lutte politique où la moitié d'Internet disent « oui, il faut continuer à utiliser ce processus de IANA comme d'habitude » et que l'autre moitié dit « non, il faut que l'on reprenne le pouvoir de cette organisation politique », qu'est-ce qu'on va faire? Ça pourrait être l'organisation, je ne sais pas, une organisation publique telle que l'UIT ou une autre. Et donc, les serveurs racines devraient prendre la décision de choisir. On a un choix maintenant. En ce moment, il n'y a pas de choix. On est content avec la situation actuelle. Mais si on avait le choix, on devrait prendre une décision. Et les autres opérateurs devraient prendre une décision eux-mêmes. Et si on n'est pas tous d'accord, on aurait différentes sources de données qui ne seraient pas les mêmes données. Donc, selon le serveur racine auquel vous enverrez la requête, vous aurez différentes réponses. Et ce serait un désastre. Et donc, les sources de données doivent coïncider. Et si tout le monde est d'accord qu'il faut faire une transition d'un point A au point B, ce ne serait pas un problème. Le problème serait d'avoir le choix. Alicia prend la parole. J'ai discuté cela parce que le gouvernement a des discussions très intenses sur les noms de domaine, sur la transition de la fonction IANA, de la supervision de la fonction. Et donc, par exemple, la Russie aura son propre IANA, la Chine aura sa propre IANA, les États-Unis à la fois aura sa propre organisation. Donc, est-ce que vous avez pensé à la diversité de fonctions qu'il pourrait y avoir? Cela pourrait rendre instable le système du serveur racine, non?
J'y ai pensé à ça et vraiment c'est une question, c'est une question, l'opinion que je vais vous donner, c'est mon opinion. C'est un scénario que l'on peut imaginer si on y réfléchit, mais si c'était comme ça, l'Internet tel que nous le connaissons n'existerait plus. Parce que on utilise le téléphone, par exemple, pour accéder à Internet. Et un système téléphonique où on fait un numéro en Chine, on parle avec une personne dans un pays, mais le même numéro, si on fait le même numéro au Brésil et que l'on parle avec une autre personne, ce serait vraiment un désastre. Donc si on se met d'accord par rapport à un plan, il faut se mettre d'accord justement. Il y a une autre question par rapport au blocage du trafic. Mais au moins, on sait que si l'on écrit ce nom de domaine, on va aller dans un endroit en particulier. Et c'est ce qui nous aide à identifier si les gens essayent de faire des bêtises, disons. Autrement, on pourrait pas le savoir. En ce moment, on sait où il y a un problème, on peut l'identifier. Nabila? Excusez-moi, Nabil. Je vais vous demander de bien vouloir dire vos noms avant de poser la question. Excusez-moi, j'ai oublié ma question. Nabil, alors ? Bonjour, je m'appelle Nabil. Je veux savoir votre opinion par rapport à DNSSEC et si cela affecte le service de serveur racine, s'il peut y avoir un soutien parmi la communauté RSSEC. J'ai aidé justement à... j'ai travaillé, disons, du côté de l'IETF à ce standard dans les groupes de travail de l'IETF. Je pense que le DNS est quelque chose de bien, quelque chose de positif. Et cela peut affecter le système dans son ensemble. Les serveurs racines sont plus affectés que d'autres serveurs. Cela affecte l'ensemble du système DNS de différentes façons. Ce qui est bien, c'est que cela nous donne un outil, une méthode, de façon à ce que le client qui reçoit l'information peut dire oui, c'est ça ce que l'autre côté a mis dans la base de données. Personne ne peut modifier ces données une fois qu'elles sont arrivées à moi. Voilà. Bien sûr, il y a des défaillances dans le système, comme dans tout autre système. Ça nous complique un petit peu la vie, parce que nous devons signer régulièrement les données. Il y a des temps, des délais pour l'expiration, etc. Donc c'est un peu plus compliqué, mais le DNSSEC est très jeune et au fur et à mesure qu'il va arriver à maturité, il y aura davantage de logiciels qui vont nous aider donc à tracer ces données. Mais cela représente aussi un problème du côté du réseau, parce que maintenant, quand on envoie une requête DNS petite, le serveur peut répondre avec un message très long. Et cela a été utilisé pour attaquer d'autres personnes. Donc, en envoyant une requête DNS, quand vous mentez par rapport à l'adresse IP que vous avez, l'adresse source, vous envoyez une requête petite vers un serveur DNS. Et donc, on va croire que la requête vient de quelqu'un d'autre. On envoie donc la réponse à cette adresse-là. Et la réponse sera longue. Donc, la personne qui a des intentions délictuelles peut envoyer donc ce paquet. Et si vous envoyez donc des petits paquets, vous allez recevoir de gros paquets. Et ces gros paquets seront reçus par la victime de l'attaque. Et cela, c'est compliqué parce que normalement, il y avait une petite requête et une petite réponse. mais avec DNSSEC, on obtient donc des réponses plus larges. Et c'est bon, un problème sur lequel nous nous penchons en ce moment. Je sais maintenant quelle était ma question. Nabil Danam de Maroc, il prend la parole. Comment ça se fait qu'il y ait des organisations privées qui maintiennent les zones racines, par exemple Verizon? Je pensais que Verizon pouvait maintenir gérer.com, mais comment ça se fait qu'il gère la zone racine? L'arbre Johan Dianen prend la parole. Cela remonte à l'époque quand j'ai commencé à travailler avec les serveurs de Nantes, c'était 92. Le serveur racine n'avait pas seulement la zone racine, mais aussi ARPAZone, la zone arpa.com.edu.org. et .net. Les noms de domaine, c'est des noms de domaine, c'est des éléments de commercialisation. On les utilise dans le commerce. Et ce n'était pas le cas à l'époque. En 92, les noms de domaine étaient gratuits. Vous pouviez vous enregistrer dans un nom de domaine sans payer quoi que ce soit. Et les solutions de réseau étaient donc faisaient l'objet de contrats. Une agence américaine, l'agence de défense américaine, je crois, à l'époque, ils étaient les fondateurs de cette recherche initiale qui a permis de développer l'Internet. Ils ont signé un contrat avec Network Solutions à l'époque pour faire une partie de ce travail. Donc cela appartient à l'histoire, à l'histoire ancienne, mais à mon avis, il n'y a pas de raison spécifique pour que Verizon fasse une partie de ce travail. Mais ils ont fait ce travail pendant les dernières 20 années. Ils ont fait un très bon travail. Donc, c'est aussi une bonne raison pour rester confiant. Sarah Kinden, je voudrais poser une question par rapport à la maintenance des serveurs racines. Quels sont les financements que vous avez pour au niveau des ressources humaines et pour pouvoir faire cette maintenance? Lab Johan Lehman, chaque organisation a son modèle de financement pour gérer cela. Ce que nous faisons à NetNode, NetNode a deux branches commerciales. Une s'occupe des espaces en Suède, des échanges en Suède. L'autre, c'est pour les serveurs qui gèrent les TLD. Donc, nous avons des clients qui sont des registres, et ne doivent pas s'occuper, disons, se préoccuper par la gestion du DNS. Et c'est un service commercial que l'on a. Et puis, on a des installations à partir desquelles on peut vendre ces services. On a 40 noms de domaine de premier niveau et le même serveur. Il y a un ensemble de serveurs qui gèrent ces noms de domaine. Ce n'est pas la même machine parce qu'on a plusieurs machines, mais tout ça est dans une même installation. Et à partir de là, on obtient de l'argent et on utilise une partie de cet argent pour financer les serveurs racines. Et c'est une relation gagnant-gagnant parce que les TLD sont un service que nous assurons, mais on obtient de l'argent là-dessus. Ils dépendent de la zone racine pour leur propre business. Donc c'est quelque chose qui fonctionne pour nous. Les différents opérateurs ont différents moyens de financement. Cela dépend des différents opérateurs. Bonjour, Monsieur Fadi Chehadé. Karel Douglas prend la parole. On voulait vous donner la bienvenue à notre équipe. Nous savons que vous êtes extrêmement occupé et nous savons que vous êtes une personne très humble et qui communiquait très bien. Et donc, je vais passer la parole à Fadi Chehadé. Merci. Fadi Chehadé prend la parole. Vous travaillez très dur ici à l'ICANN, il n'y a pas de pause. C'est ma quatrième réunion de la journée. Il y a beaucoup de travail à l'ICANN. Je suis sûre qu'en tant que boursier, cette communauté demande beaucoup de nous. Et nous devons. Je sais qu'on vous demande beaucoup, mais l'ICANN va vous donner beaucoup. J'ai des enfants. Je ne sais pas combien d'entre vous avez des enfants. Mes enfants sont des adultes maintenant. Ils sont une vingtaine d'années. Je ne sais pas si vous connaissez l'étude BCG qui a été menée l'année dernière. Je pense que c'est vraiment intéressant. Quand on demande aux gens par région ce à quoi ils renonceraient, si c'est l'Internet ou le café pendant une année, ou on leur demande s'ils préféraient de renoncer à prendre une douche ou à l'Internet, ou s'ils doivent renoncer au sexe ou à l'Internet. Et c'est vraiment intéressant. Ça a été fait, cette étude, par le Boston Consulting Group. Cette étude, donc, a montré comment l'Internet est devenu un élément crucial. Et cette étude a été faite par région. Et cela vous montre, par exemple, que ce que les Chinois, par exemple, doivent renoncer au café ou à l'Internet, c'est différent, par exemple, par rapport aux Italiens. Mais ils peuvent même pas comprendre les questions que l'on leur pose parce qu'ils vivent dans l'Internet. Récemment, j'ai dit dans une conférence qu'il y avait tous ces ministres, tous ces fonctionnaires qui parlaient du cyberespace. Et j'ai dit, le cyberespace est mort. Il n'y a pas de cyberespace et espace réel. Tout l'espace est un cyberespace. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans des projets par rapport à l'Internet des objets. C'était en 2007-2008. On était dans les premières étapes de ces projets. Nous travaillons sur un projet à Dubaï pour essayer de faire des plans pour des réseaux complets. Parce qu'à Dubaï, ils ont le problème de l'eau. Ils n'ont pas suffisamment d'eau. Et ils voulaient donc pouvoir arroser les plantes parce que les capteurs des plantes disaient qu'il fallait les arroser. Donc, nous étions en train de mettre en réseau les plantes pour que les plantes puissent parler au réseau et leur dire « il faut qu'on m'arrose » ou « j'ai suffisamment d'eau » ou « pas suffisamment ». Donc, voilà. Ou à Los Angeles, l'un des grands problèmes de pollution, c'était de pouvoir trouver un espace où se garer. Donc, on voyait un projet, on travaillait sur un projet où les garages pourrait y avoir des capteurs connectés au GPS des voitures pour leur dire où il y avait des espaces vides, où se garer. C'était des projets à l'époque, on commençait maintenant. Tout le monde parle de l'Internet des objets, mais ce sera une réalité et c'est une réalité déjà. Les plantes, les chiens, les enfants vont tous parler au réseau. L'Internet des objets est quelque chose de vraiment impressionnant. On peut faire énormément de bonnes choses avec. Mais tout cela, quand on commence à travailler, tout cela dépend de l'Internet. Comme je vous ai dit, le café versus l'Internet. Et l'Internet des objets, si on combine ces deux choses, ça veut dire que la gouvernance de tout cela devient un élément clé pour la gouvernance de la planète. Et c'est pourquoi, lundi, nous avons eu tous ces fonctionnaires, ces représentants des gouvernements. Ils ne sont pas venus parce que Ed Vasey, le ministre anglais, les invitait. Ils sont venus parce que la gouvernance de l'Internet est maintenant un élément clé pour la gouvernance mondiale. L'économie de l'Internet, toute seule, à elle seule, a représenté 4 000 milliards à peu près d'échanges, au niveau des échanges. C'est l'Internet, c'est énorme. C'est plus que l'énergie dans certains pays. 4 millions de milliards. Mais permettez-moi de vous dire pourquoi c'est important que vous soyez tous là. Quel pourcentage de ces 4 billions de milliards de dollars sont générés dans le monde en développement? Rien, que dalle. Que dalle. Un tout petit pourcentage, et ce n'est pas bien. Mes enfants à Los Angeles ne peuvent pas vivre ce passé de l'Internet. Mais quand je suis allée à Durban pour la réunion de l'ICANN, Durban est l'une des villes les plus importantes de l'Afrique du Sud. Jeudi matin, je me suis levée très tôt et avec beaucoup de participants, nous sommes montés dans un bus. Étiez-vous là pour ce voyage? Tu t'en souviens? Nous sommes allés, c'était une matinée de pluie, nous sommes allés dans une école à Durban, des enfants de 10 ans, 11 ans, et un collège, et nous avons peint l'école. On s'est bien marré, bien amusé. Nous étions tous tachés de peinture, et je suis allée parler aux enfants dans une classe. Et nous tous, nous nous sommes divisés. Nous avons parlé avec tous les élèves de l'école. Ma classe avait à peu près 30-40 enfants qui avaient qui avaient 13 ans. Et j'ai commencé en disant, l'ICANN fait ça et ça pour l'Internet. Et leurs têtes, ils m'ont regardé avec des têtes, ils ne comprenaient rien. Je me suis dit, j'ai demandé, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Combien de gens ici ont entendu parler de l'Internet? Et un petit enfant, il a levé la main, il m'a dit, je ne sais pas ce que c'est, mais ma maman m'en a parlé. Ma maman, là, elle m'a dit, je ne sais pas ce que c'est, mais ma maman, là. J'étais vraiment étonnée, on est en 2015 presque, et je n'en revenais pas. C'est comme si on avait atterri dans une autre planète. Et franchement, j'ai quitté l'école ce jour-là en disant, nous sommes assis ici, on se bat pour voir qui va avoir point champagne, qui va avoir point wine. Et la moitié des enfants de la planète n'ont pas l'opportunité qu'ont mes enfants. Il y a quelque chose qui n'est pas bien, qui ne tourne pas rond ici. Nous avons énormément de travail à faire. Vous dites, très bien, donc quittons l'ICANN et allons travailler dans des endroits où il faut favoriser l'accès à Internet. Si cela vous tente, allez-y. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et si, quand je quitterai l'ICANN, c'est ce que je voudrais faire. Mais si nous ne gouvernons pas l'Internet correctement, ces petits-enfants n'auront pas accès, et ils devraient avoir accès à Internet. Et cet Internet doit être gouverné de façon équitable. Donc les deux questions sont importantes. Il faut permettre que tout le monde puisse accéder de façon équitable à cette ressource que l'on appelle l'Internet, car c'est une ressource merveilleuse qui peut éliminer toutes les barrières. Mais nous devons bien gouverner cet Internet. Et l'ICANN, on se focalise sur la gouvernance des noms et des numéros. Donc l'ICANN ne s'occupe pas uniquement des accès, mais aussi s'occupe de toute la gouvernance de l'Internet. Les noms et les adresses, c'est le domaine technique. mais vous m'avez entendu parler de la gouvernance de l'Internet au sens plus large. C'est parce que nous appartenons à l'écosystème de l'Internet. Et si cet écosystème n'est pas bien géré ou gouverné, nous serons également affectés. Et c'est pour ça que l'on va à des réunions avec l'UIT. Tout le monde se bat pour la gouvernance de l'Internet parce qu'il faut permettre au monde entier de participer à cette gouvernance. Mais il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair comment cette gouvernance sera mise en place. C'est pourquoi je vous demande de lire et relire les principes de Net Mondial. Net Mondial était vraiment un moment charnière, non parce que l'on ait inventé quoi que ce soit, parce qu'on a parlé de ces principes depuis longtemps, mais parce qu'on est parvenu à établir certains principes et dire voilà, c'est la base sur laquelle nous allons nous baser donc pour pouvoir continuer à travailler. Il faut construire un écosystème qui puisse être basé sur ces principes. Nous voyons donc maintenant l'importance de tout cela quand on voit le ministre chinois qui lit un rapport envoyé par le président de la Chine à une réunion de l'ICANN. C'est quelque chose de super important. Nous ne nous occupions que des noms et des adresses. Mais il y a un message. Ce ministre a fait passer un énorme message. Nous saluons les principes établis à Net Mondial. C'est un message super important. La Chine a soutenu les principes établis à Net Mondial. Les principes de Net Mondial. Même si on n'utilise pas le mot multipartite, il s'agit des principes multipartites, c'est tout ce à quoi on croit. Les principes, le Brésil les a toutes soutenus, la Chine les a soutenus, le monde entier les a soutenus. Il y a un pays qui n'était pas d'accord, c'était la Russie. Et si vous lisez bien ce qu'on dit, la Russie et l'Occupa, c'est pas qu'ils aimaient pas les principes. Ils ont pas aimé, ils ont pas apprécié le processus parce que c'est un processus différent. C'était un processus où tout le monde a participé, on parlait dans le micro. Ils ont pas aimé le processus. Très bien, d'accord. Tôt ou tard, ils vont s'habituer, mais le reste du monde l'a apprécié. Voilà. Voilà la promesse pour les prochaines 15 années. Je deviens de plus en plus vieux avec ce travail. Et à un moment ou à un autre, quelqu'un va me remplacer. Et j'espère que la plupart d'entre vous feront partie de la famille de l'ICANN à ce moment-là. C'est une très belle famille. Et je vais faire de mon mieux pour que ce soit accessible à tous. Ce n'était pas le cas quand je suis arrivée. Comme j'ai dit le premier jour, l'ICANN était comme une forteresse. Et c'était une forteresse parce que la mentalité, c'était qu'on avait quelque chose de précieux qu'il fallait protéger. Et on avait construit des murs tout autour de notre travail. Et je dis toujours qu'il faut donc détruire ces murs. Et l'ICANN doit être un oasis. Ne doit pas être un oasis. Il doit pouvoir vu de partout pour que l'on puisse arriver, se sentir qu'on fait partie du processus. Quelque chose d'ouvert, l'ICANN doit être ouvert à tous, même à nos ennemis, parce que c'est la règle. On laisse tout le monde participer, on exclut personne. Il faut donc partir de la base du principe de l'inclusion. Et un dernier point, et après je vais répondre à vos questions. Je voulais vous dire qu'en tant que boursier, à mon avis, c'est l'un des programmes les plus réussis de l'ICANN, le programme des boursiers. Et j'ai dit à Janice de doubler nos efforts pour le faire de plus en plus important. Elle l'a fait. Et avec l'aide de Janice et des collègues, nous allons tripler ce programme, c'est-à-dire le multiplier par 3. C'est le programme le plus important dont dispose l'ICANN. Hier, je parlais avec un vendeur de logiciels parmi les plus importants qui m'a dit « Je veux aider l'ICANN avec des activités. Quel programme, dans quel programme pourrions-nous participer ?» C'est l'un des compagnies les plus importantes. Et je leur ai dit, investissez dans le programme de boursiers. Ce n'est pas une question d'argent uniquement. C'est une question d'énergie, de temps, de sensibilisation pour que les gens puissent connaître ce que l'on fait, qu'ils puissent nous rejoindre. Et c'est une partie très importante de l'ICANN. C'est notre avenir. Comme les utilisateurs qui sont le cœur de l'ICANN, le programme de boursiers, c'est vraiment l'avenir de l'ICANN. Et je veux vous dire une chose par rapport à cela. Nous avons des gens qui continuent à construire des murs autour de l'ICANN. Vous allez trouver des gens qui construisent des murs entre les nouveaux et les anciens. Qui êtes-vous, etc. Démolissez ces murs, ne les acceptez pas. Travaillez dur et démolissez ces murs. Ne permettez pas qu'on vous dise qu'ils sont plus ICANN que vous. Personne ne pourra vous dire cela. Peu importe combien de temps ils ont passé à l'ICANN. Comme moi, quand je suis arrivée, beaucoup de gens essayaient de me dire « Vous connaissez rien à l'ICANN ». Et si vous regardez les transcriptions de mes premières réunions, les gens me disaient « Vous ne connaissez pas notre communauté, vous n'êtes pas l'un de nous ». C'est ce qu'ils me disaient, hein, c'est très important. Par contre, il y a beaucoup de gens à l'ICANN qui ont travaillé avec moi. Mais je vous dis, quand vous voyez des gens qui vous disent « Vous n'êtes pas l'un de nous », ne parlez avec eux et remettez-les à leur place. Parce que si on laisse croire à ces gens que l'ICANN leur appartient, nous allons tous perdre. Et ce n'est pas l'esprit des boursiers, des fellowships. Donc promettez-moi cela, c'est très important. Et écrivez-moi si jamais vous pensez que les gens construisent des murs autour de l'ICANN, des murs que vous ne pouvez pas traverser, il faut que vous me le disiez. C'est très important. Parce que les gens essayent de protéger leur territoire. Mais il n'y a pas de territoire à chacun dans l'ICANN. C'est un oasis et c'est un endroit pour tout le monde. Je peux répondre à quelques questions. S'il vous plaît, c'est vous qui gérez, s'il vous plaît. Très bien. Là, c'est Karel Douglas. Très bien. Louis, je m'appelle Lien de l'Indonésie. Je suis ces réunions depuis 2009, depuis que vous êtes devenu président de l'ICANN. Vous avez fait énormément de choses et j'apprécie cela. En ce qui concerne ce que vous avez dit par rapport à la place des jeunes et des enfants qui n'ont pas de connexion Internet, Fadi prend la parole. Je sais que c'est important. C'est important pour moi aussi. Il y a un mouvement assez important dans le monde entier pour essayer d'incorporer ces gens. C'est comme si on était en train de manger et qu'il y avait des personnes dehors qui sont mortes de faim. Est-ce que vous seriez en train de manger alors qu'il y a des gens dehors qui ont très faim et qui n'ont rien à manger? Et c'est fou de penser qu'on se préoccupe par la qualité du vin que l'on est en train de boire, tandis qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger. Je sais que c'est très très sensible, c'est une question très sensible, très émotionnelle, très émouvant. Mais nous devons en parler et essayer de faire en sorte que l'on puisse changer cette situation. Personnellement, je vais le faire. L'ICANN s'occupe de la gestion de noms et des adresses, mais l'ICANN s'occupe aussi de la gouvernance. Et donc, il faut dire aux gens que ce n'est pas juste. On ne peut pas se battre par rapport à la qualité du repas alors qu'il y a des gens qui meurent de faim.
You're also the man of great influence.
Lee reprend la parole.
Because
C'est une question très importante pour moi parce que même en tant qu'acteur, j'ai vu beaucoup d'enfants et nous, on a des ordinateurs, des portables très sophistiqués. Mais ce n'est pas juste pour ces petits-enfants qui n'ont pas accès. Et donc, c'est ça que je demande. Je sais que ce n'est pas le business principal de la CAN, que vous occupez des noms et des numéros. Mais avec votre influence, sans doute, vous pouvez attirer l'attention d'autres parties prenantes. Et donc, essayez de le faire, s'il vous plaît, je le demande. Essayez de consacrer une partie de vos ressources, que ce soit de l'argent, des connaissances, des compétences, pour développer le système pour ces personnes. Et moi, j'appartiens au gouvernement et on fait de notre mieux, vraiment. Mais de toute façon, on ne peut pas travailler tout seul. Pendant les réunions de la CAN, j'ai vu d'autres parties prenantes à qui cela n'intéresse pas. Je m'excuse, mais il faut que je sois franche ici. Ça ne les intéressait pas. Le plus important pour eux était de voir combien d'argent ils pouvaient avoir. Et c'est vrai. Dès qu'ils ont de l'argent, ils vont aider leur pays également. Je ne suis pas contre cela. Mais s'il vous plaît, de 1 à 10, vous avez un espace qui vous occupe. Donc, de 1 à 3, vous devriez consacrer vos ressources pour les personnes qui ne peuvent pas participer à la CAN. Fadi Shadé reprend la parole. Je suis très émue par votre attention et le niveau auquel les personnes qui n'ont pas accès vous importent. C'est réel. Pour l'accès à Internet, c'est devenu un moyen essentiel pour que nos enfants vivent bien, qu'ils prospèrent. Ce n'est plus un luxe. Et voilà pourquoi vous pleurez, parce que ça vous fait du mal. Vous sentez la douleur de ceux qui n'ont pas accès. Et je vous dirai rapidement que je suis très engagée avec votre douleur et j'agis pour le résoudre. Je viens de me réunir avec le roi d'un pays très très riche. Il me disait, on veut faire tout cela à l'horizon 2020 pour pouvoir nous servir des fonds. Et je lui ai dit, votre majesté, et si vous connectiez 1000 écoles au monde en voie de développement Internet? Il m'a regardé, il a dit, parce qu'il parlait de bâtir, de villes. Et je lui ai dit, alors, et votre royaume qui a autant de ressources? Et si vous connectiez des milliers d'écoles? Cela correspond à mon expérience à Durban, hein, je l'ai parlé de collège. J'ai dit, il n'y a que 6% des collèges dans la planète qui sont connectés à Internet. Et si on améliorait cela? Il me dit, envoyez-moi une proposition que je suis en train de préparer. Et donc, je me sers de mon temps avec ces dirigeants pour qu'ils sachent également, pour les sensibiliser de leur responsabilité mondiale. Et je lui ai expliqué pourquoi cela serait également bénéfique pour son royaume. Ce n'était pas simplement pour le pays en voie de développement, mais parce qu'un monde connecté est mieux. Le plus de personnes ont accès à Internet, cela aide les royaumes, les pays, les personnes à atteindre une communauté mondiale. Je suis en train de préparer ma proposition et j'espère qu'il va l'accepter. Une personne non identifiée prend la parole. Merci. Les émotions que nous montrons sont ce que nous sentons tous. Lorsque vous parlez de Durban est tout près de là où j'habite. Je suis Raumusu, je viens du Botswana, et c'est tout près de là où j'habite. Et vous savez, les Sud-Africains sont un peu plus problématiques que nous, ils sont un peu plus riches. La première fois que j'ai vu un ordinateur, j'avais 10 ans. C'était il y a 205 ans, dit Fadi. La dame du Botswana reprend la parole. Non, mais la première fois que j'ai utilisé un ordinateur, j'avais 14 ans. Et c'était grâce au fait que j'étais dans une des écoles les plus prestigieuses de la zone. Mais la plupart de mes pairs, la première fois qu'ils ont utilisé un ordinateur, étaient à l'université. Donc 6 ans plus tard. Et à 20 ans, c'était la première fois que j'utilisais un ordinateur. Et cela vous montre l'importance de l'accès. Et à partir de ce moment, je me suis engagée et j'ai promis faire de mon mieux, tout mon possible, pour m'assurer que les enfants aux écoles auraient l'accès. Que ce soit au moins un ordinateur pour toute l'école. Je ne viens pas de ces zones rurales, distantes. Je viens d'une des villes principales du pays, mais de toute façon, on a des écoles, même dans la ville, qui n'ont pas d'accès au système informatique, à des ordinateurs. Ça améliore, bien sûr, mais c'est toujours un problème. Et je viens du Botswana, qui est l'un des producteurs de diamants principaux au monde. Et le PBI par personne est assez haut, mais de toute façon, on a toujours ces problèmes d'accès. Et lorsque je vous entendais parler, j'ai pleuré un peu. Ça m'a fait revenir en arrière, penser à ces années passées. Et donc, on a tous une responsabilité de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, là où on est. Enfin, du chadé, il faut que je parte. Mais je voudrais reprendre ce que vous avez dit. On a tous une responsabilité, tous. Donc, je vous demande quelque chose de spécifique. Il y a beaucoup de personnes qui me mettent au centre du débat. Et oui, je vais me servir de mes influences. Mais je ne suis pas le centre ici. Ce qui est important, c'est nous tous. Fadi sera parti un jour. Ici, ce qui importe est Internet, l'utilisateur d'Internet. Et on est tous responsables au même niveau. On fait chacun ce qu'il doit faire. Et on va bien le faire. Mais il faut qu'on soit tous engagés au même niveau. Vous avez ma promesse. Maintenant, je vais partir. Mais je voudrais, avant de partir, vous serrer la main. Vous serrez tous la pince. Comme ça, j'aurai l'occasion de rencontrer tout le monde, OK? Karl Douglas, avant de partir, Fadi, on voudrait que tout le monde nous remette ses questions et on vous les enverra parce qu'on en a autant. Envoyez les questions à Janice, s'il vous plaît, Diawi, ou à Ginny.
Mr. Yeah, thank you. Please, please.
Carl Douglas, une salle d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Fadi Shehadeh. On remercie tous Fadi d'être venu nous voir. On est très reconnaissants. Il est sorti de la salle? Ah non, il n'est pas sorti.
Hi, Janice. I know you're there. This is Adrian.
Yes. Okay. Yes.
I do what I can. Thank you. Anytime you want, just let me know. I was actually thinking about giving my services for free. So if you need someone to organize the fellows before each meeting,
I know.
Just let me know and I can repeat it as many times as needed.